Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue comme tous les jours, l'antenne vous appartient, nous sommes ensemble jusqu'à 11h, heure de Paris, avec dans un instant, évidemment, vos questions à la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien appelez-nous et n'attendez pas le début de l'émission, évidemment, pour nous rejoindre, vous pouvez le faire tout au long de la journée. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous nous envoyez évidemment vos questions également par courrier électronique appel au pluriel .actu@rfi.fr. Dans 30 minutes, notre débat du jour et nous parlerons du démantèlement d'un trafic présumé de bébés au Niger, l'affaire fait polémique sur place, elle défraie la chronique des bébés qui viendraient, tenez-vous bien, du Nigeria voisin et qui auraient transité par le Bénin avant d'arriver au Niger. Une trentaine de nouveau-nés seraient victimes de ce trafic. La semaine dernière, donc, 17 personnes ont été écrouées et parmi elles, les épouses de deux personnalités politiques, dont celle du président de l'Assemblée nationale. Autant dire que cette affaire prend évidemment une ampleur politique. D'ailleurs, l'avocat de la famille de l'Assemblée du président de l'Assemblée nationale dénonce une machination politique visant tout simplement à empêcher l'actuel président de l'Assemblée nationale à briguer la magistrature suprême, à être candidat à l'élection présidentielle de 2016, d'autant que Ama Amadou est aujourd'hui présenté comme le principal opposant du Niger. Que pensez-vous de cette affaire? Faut-il y voir effectivement une manœuvre politique? On en parlera évidemment dans une trentaine de minutes. Stéphanie Schuller du service international est à mes côtés. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce studio. La première question de la semaine nous vient du Japon. Eric nous appelle de Yokohama. Bonjour Eric.
Bonjour Juan.
Bienvenue.
Bonjour à tous les invités des RFI.
Vous nous appelez donc de Yokohama, c'est à 30 km au sud de Tokyo. Vous avez des questions concernant la Syrie?
Absolument. Bon, voilà, Juan, la semaine dernière, j'ai suivi par les ondes de RFI que le président américain avait demandé une aide au Congrès américain de 500 millions de dollars pour soutenir et équiper l'opposition armée en Syrie. Alors, à ce sujet, je voudrais savoir, Juan, à quoi va servir cette aide? Comment cette aide sera-t-elle répartie? Et pourquoi cette aide intervient maintenant et plus spécifiquement en Syrie quand on connaît l'urgence de la situation en Irak?
Ouais. C'est vrai qu'il y a de l'urgence également en Irak. Pourquoi la Syrie et pourquoi maintenant? Stéphanie Schuller, 500 millions de dollars, c'est le montant que Barack Obama veut donner à l'opposition syrienne. C'est toi, à quoi vont servir ces 500 millions de dollars?
Alors l'administration Obama n'était pas encore tout à fait précise, il faut le dire, sur ce sujet. La Maison-Blanche a fait tout de même savoir, Juan, que cet argent serait alloué à l'équipement et à l'entraînement de l'opposition modérée, il faut le dire quand même, hein, en Syrie. Selon les informations du New York Times, ces programmes d'entraînement seraient menée non pas par la CIA, ça c'est important, mais par l'armée américaine. Et de son côté, le Washington Post, donc vous voyez, on est un peu dans le flou et les médias avancent des pistes. Mm-hmm. Selon le Washington Post, donc, ces entraînements pourraient se dérouler en Jordanie et en Turquie.
Alors, on sait que les États-Unis soutiennent les rebelles modérés hein, depuis le début du conflit. Que sait-on concrètement de l'équipement fourni par les Américains?
Bah alors, vraiment pas encore grand-chose, Juan. Ah. Jusqu'ici, vous savez, l'administration Obama a livré des armes légères, surtout, et des munitions aux rebelles syriens. De leur côté, vous le savez aussi, les rebelles réclament la livraison d'armes lourdes et notamment des missiles sol-air pour se défendre contre les attaques de l'aviation de Bachar al-Assad. Et jusqu'à présent, vous savez, l'administration américaine avait rejeté cette demande par crainte que ces armes puissent se retrouver entre les mains des djihadistes, donc les armes plus lourdes. Et maintenant, on ignore encore si les États-Unis vont maintenant accepter cette demande et éventuellement fournir en effet des armes plus conséquentes aux rebelles modérés.
Pourquoi cette annonce, donc cette volonté de Barack Obama de donner 500 millions aux rebelles, intervient maintenant?
Ben, c'est très visiblement la situation en Irak, hein, justement, qui est à l'origine de ce changement de stratégie des Américains en Syrie. Pour Washington, il s'agit d'éviter à tout prix que l'Irak sombre dans le chaos. Pour cela, il faut combattre les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Alors, comme vous savez, les djihadistes de ce groupe ont lancé cette année plusieurs offensives fulgurantes en Irak, où il contrôle désormais plusieurs provinces. Mais le IEL est aussi engagé en Syrie, où il contrôle également des pans de territoire, notamment dans l'est du pays, à la frontière avec l'Irak. Alors, dans ces régions conquises, les djihadistes veulent instaurer un califat islamique. Donc, d'ailleurs, ils ont annoncé la création ce dimanche, donc
hier. Et dans ce contexte, Stéphanie, pourquoi l'administration Obama veut-elle renforcer les rebelles modérés en Syrie?
Parce que justement, la rébellion modérée syrienne ne se bat pas seulement contre l'armée de Bachar al-Assad, mais aussi contre les djihadistes. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain John Kerry l'a clairement dit la semaine dernière, alors qu'il était, vous vous souvenez peut-être, en tournée dans la région. Il a dit « L'opposition syrienne modérée a la capacité d'être un important acteur pour combattre la présence de l'EIL en Syrie et en Irak. » Donc, en apportant une aide, si vous voulez, Juan, militaire significatif aux rebelles modérés en Syrie, Barack Obama tente donc d'ouvrir une sorte de deuxième front contre les djihadistes.
Et pour expliquer peut-être cette démarche de Barack Obama, il faut peut-être y voir aussi peut-être des arrière-pensées de politique intérieure ou pas?
Oui, tout à fait. Le président a été vivement critiqué ces dernières semaines pour ne pas avoir voulu armer jusqu'à présent les rebelles modérés en Syrie. C'est à cause de l'hésitation de Barack Obama, disent ses adversaires aux États-Unis, que l'EIL a pu se renforcer en Syrie pour ensuite partir à l'assaut de l'Irak. Alors, au-delà des raisons géopolitiques, c'est donc aussi pour faire taire ses critiques au niveau national sur sa politique étrangère et surtout aussi sur sa lutte contre le terrorisme que le président américain était contraint de réagir. D'ailleurs, sachez quand même que les 500 millions de dollars d'aide doivent être encore approuvés par le Congrès. Mais je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que cette demande présidentielle a de très fortes chances d'aboutir en tout cas.
À suivre. On a répondu à vos questions, Eric.
Eh bien, Juan, je suis satisfait, comme d'habitude, du RFI. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci d'écouter RFI à Yokohama au Japon où il est 17h16. À bientôt, Stéphanie Schuller. Bonne journée.
À bientôt.
33 9 693 693 70. Bonjour, Abdallah.
Bonjour, Juan. Bonjour à Jamina qui nous écoute sur 105.5 à Yaoundé.
Ah, vous voyez, à Yaoundé, au Cameroun. En tout cas, vous nous appelez de Bouéa, dans le sud-ouest du pays. Vous avez des questions concernant l'accord trouvé la semaine dernière entre le français Alstom et l'américain General Electric?
Absolument, Juan. Alors, la semaine dernière, j'ai appris sur les ondes de la radio du monde que finalement, et contre toute attente, le groupe Alstom avait finalement décidé de s'associer avec le groupe américain General Electric. Alors, ma question est de savoir pourquoi est-ce que Alstom a préféré General Electric plutôt que l'allemand Siemens, surtout en ce moment où on parle de solidarité économique en Europe, mais surtout, quel avantage pour le groupe Alstom de s'associer avec ce groupe-là?
Ouais, c'est vrai que c'est la fin du feuilleton. Hein. Après 2 mois de rebondissement, Alstom a donc choisi General Electric pour reprendre son pôle énergie. Altim Lazage du service international est à mes côtés. Bonjour Altim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que pendant les négociations, on a beaucoup entendu parler de protectionnisme européen. On se souvient Arnaud Montebourg, le ministre de l'économie, dire qu'il valait mieux pour la France qu'Alstom soit racheté par Siemens, qui est donc une entreprise allemande, donc européenne finalement. On a choisi les Américains. Pourquoi?
Mais parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une offre de Siemens comme l'entendait le ministre, à savoir une alliance avec Alstom sur les activités énergie et transport. L'allemand Siemens a proposé d'acheter l'activité turbine à gaz et éventuellement de vendre une partie de son activité ferroviaire à Alstom. Pour le reste des activités énergie, Siemens proposait des co-entreprises entre Alstom et le japonais Mitsubishi. En revanche, l'américain General Electric propose de créer aussi des co-entreprises dans le secteur énergie et prêt à laisser pour 1 milliard de dollars à Alstom son activité de signalisation ferroviaire. Cela permettra d'ailleurs aux Français de profiter à l'avenir du marché ferroviaire des États-Unis, car c'est là-bas que se trouve cette activité de General Electric. Donc, déjà sur le profil, l'offre de General Electric est plus concurrentielle. L'américain est seul. Ce qui veut dire pas de montage compliqué comme c'est le cas de Siemens, Mitsubishi. Et en plus, General Electric vend tout de suite son activité de signalisation Alstom. Autre inconvénient, à croire Arnaud Montebourg, le gouvernement a travaillé sur la solution franco-allemande, sur les activités réseau, hydraulique, éolien, TGV, locomotive. Bref, créer une orbus de l'énergie et de transport. À chaque fois, c'est-à-dire à chaque alliance possible sur ces activités, il s'est confronté à ce qu'on appelle le contrôle des autorités européennes des concurrences, selon lesquelles, dès qu'une alliance sur un secteur domine le marché européen, Bruxelles met son veto, car il y a violation des règles de la concurrence. comme sur tous ces secteurs que je viens de mentionner, Alstom et Siemens partagent presque le marché européen, il était impossible d'imaginer une alliance franco-allemande.
Ouais, est-ce que Bruxelles a déjà mis son veto sur d'autres alliances d'entreprises européennes ?
C'est le cas de l'affaire Pechiney, le producteur français d'aluminium, au début des années 2000, un projet de fusion à trois avec le Suisse Algroup et le Canadien Alcan, est refusé par la Commission européenne, car il y voyait un risque d'abus de position dominante. Résultat, le Canadien Alcan profite de l'échec de ce projet de fusion pour avaler le Suisse Algroup, puis, en juillet 2003, pour lancer une OPA surprise en bourse sur le français Pechiney. Résultat donc, l'entreprise française est donc entièrement achetée. Je peux mentionner aussi l'affaire de Schneider Group en janvier 2001, les groupes Schneider Electric et Legrand, tous deux français, annoncent le rapprochement. Huit mois après, le commissaire chargé de la concurrence de l'époque, Mario Monti, met son veto. La commission estime alors que la création de ce géant mondial pourrait créer des entraves aux règles de la concurrence.
Ouais, en tout cas, sur le dossier Alstom, la presse aux États-Unis et en Allemagne a critiqué l'intervention du gouvernement français. Il faut quand même rappeler qu'un décret a été adopté le 7 mai dernier, et ce décret donne, on peut le dire, un droit de veto au gouvernement. C'est-à-dire que désormais, le gouvernement français a la possibilité de bloquer les investissements dans le secteur de l'énergie et des transports, ce qui a fait monter du coup les enchères des prétendants d'Alstom. Est-ce que d'autres pays sont dotés finalement de ce dispositif de protecteur?
Ce procédé existe partout en Europe et même aux États-Unis. Depuis 25 ans, le président américain, par exemple, a le pouvoir de bloquer le rachat d'une société américaine par une société étrangère, surtout si l'opération peut affecter la sécurité nationale. En 2006, une société saoudienne voulait acheter pour 7 milliards de dollars PO l'opérateur américain des ports de la côte Est. Le Congrès s'est opposé, estimant que cela représentait un danger pour la sécurité nationale. En Grande-Bretagne également, pays très libéral, existe le concept de Golden Share, ces actions spécifiques détenues par les pouvoirs publics qui leur donnent une sorte de droit de veto. Face à des enjeux stratégiques, les politiques n'hésitent pas donc à s'impliquer. En Allemagne aussi, les banques sont très présentes dans le capital des entreprises, notamment les très puissantes banques régionales. C'est à ce titre qu'elles préservent les intérêts de leur territoire, car les pouvoirs publics en Allemagne sont actionnaires principaux du capital de ces banques.
Merci beaucoup, Altim Lazage. Voilà, Abdallah, on vous souhaite une bonne journée à Bouéa, au sud du Cameroun, 10h22 à Paris, avant de repasser au standard. Je vous rappelle qu'à l'occasion des commémorations internationales du centenaire de la Première Guerre mondiale, RFI vous propose demain une journée spéciale, avec des invités, des reportages, et ce sera l'occasion, si vous le souhaitez, de nous poser vos questions pour mieux comprendre la Grande Guerre, la guerre 14-18 qui a ravagé l'Europe, qui a fait des millions de morts, 10 millions de morts, certains parlent même de 20 millions de morts. Toutes vos questions donc sur les causes de la Première Guerre mondiale, les alliances, les stratégies militaires, les conséquences, appelez-nous, inscrivez-vous dès maintenant, 33 9 693 693 70. D'autres questions à la rédaction, nous allons parler football. Fousseni, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes en Guinée, à Conakry, on vous écoute.
Non, je suis à
Togo. Ah, autant pour moi, excusez-moi, j'avais mal noté sur ma petite fiche. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions précisément sur Luis Suarez, la star uruguayenne.
Oui, exactement.
On vous écoute.
Oui. On a appris la suspension de Luis Suarez, 4 matchs. 9 matchs, 4 mois.
Oui.
Pour avoir commis un geste sur le défenseur italien Chiellini.
Et donc?
Alors, Luis Suarez peut faire le cours afin d'atténuer ses sanctions et de retrouver vite le chemin de stade.
Ah, est-ce qu'il peut faire recours? Alexandre Sebon du service des sports, bonjour.
Bonjour,
bonjour à tous. Lourde condamnation, lourde sanction, 9 matchs internationaux plus 4 mois en club. Faut dire que Suarez est un multirécidiviste, il a moyen de faire recours ou pas?
On l'a vu, non, puisque l'Uruguay a joué déjà son 8e de finale face à la Colombie.
Samedi.
Donc il n'a pas pu faire appel à court terme, donc il ne l'a pas pu rejouer dans ce mondial. En revanche, c'est la sanction de 9 matchs, c'est avec la sélection nationale 4 mois, ce sera avec Liverpool ou un autre club s'il est transféré cet été. Mais c'est justement cette sanction qui peut être cassée puisque elle empêche, pardon, excusez-moi, clairement, Luis Suarez d'exercer son métier. D'ailleurs, un groupement d'avocats sud-américains va porter plainte contre cette décision qu'il juge disproportionnée, discriminatoire. C'est une violation du droit fondamental, a déclaré ce groupe d'avocats dans un communiqué. Donc, la bataille judiciaire pour que Suarez retrouve les terrains rapidement est engagée.
Oui, en tout cas, le gouvernement uruguayen a jugé disproportionné les sanctions de la FIFA. Même le président uruguayen est intervenu dans le débat. Affaire à suivre, évidemment, dans les prochaines semaines. En tout cas, l'absence de Suarez samedi dernier sur le terrain.
Et ben ça s'est vu.
Ça s'est vu, ça s'est senti face aux Colombiens.
Évidemment, en fait, si vous voulez, on avait déjà vu l'Uruguay sans Suarez lors du match inaugural face au Costa Rica, défaite des Uruguayens. Ensuite, Suarez a joué deux matchs face à l'Italie et l'Angleterre, deux victoires. Et puis voilà, face à la Colombie, pas de Suarez sur le terrain. Les Uruguayens étaient moins mordants, si j'ose dire, moins précis en attaque. Et ils ont perdu.
Autre question au standard. Salé, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les éditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Mundo, on vous écoute. Vous avez des questions concernant l'arbitrage?
Voilà. Il y a de plus en plus des erreurs d'arbitrage pendant ce mondial. Des pénalties imaginaires qui sont accordées alors que les vraies pénalties sont refusées. Alors, je voudrais savoir pourquoi la FIFA n'autorise pas la vidéo à tous les jeux. Pourtant, elle l'a admise pour voir si la balle a franchi la ligne de but.
Alors Alexandre Sebon, c'est vrai que c'est la première fois que la vidéo est utilisée en Coupe du Monde de football, mais uniquement lorsqu'il s'agit des buts.
Alors, on va remettre un peu dans le contexte. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la FIFA, à elle seule, ne peut pas changer les règles du football, car en réalité, elle fait elle-même partie d'une instance qu'on appelle le Conseil international du football, communément appelé l'IFAB. Cette instance, c'est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu et du football. Elle est composée de représentants de la FIFA et des quatre fédérations britanniques pionnières, en fait, du football, les fédérations anglaises, écossaises, galloises et nord-irlandaises.
Et comment fonctionne cette instance?
En fait, lors des prises de décision, la FIFA a quatre voix et les fédérations britanniques une voix chacune. Les décisions de l'IFAB sont approuvées lorsqu'elles recueillent au moins six voix. Le quorum est donc de 4/5 des organisations. Cela rend donc nécessaire l'approbation de la FIFA pour chaque décision de l'IFAB, mais la FIFA elle seule ne peut modifier les règles du football sans qu'elle ne soit approuvée par au moins deux autres membres de l'IFAB.
Donc une fois qu'on sait ça, on comprend un peu mieux finalement le pouvoir assez restreint de la FIFA sur les règles du jeu.
Voilà, ceci étant, Juan, ces règles ont légèrement été modifiées puisque vous l'avez dit par l'IFAB. Et ils ont choisi de tester pour ce mondial la technologie sur la ligne de but, vous l'avez dit, et la vidéo a posteriori des rencontres pour sanctionner ou retirer un carton à un joueur. La vidéo a posteriori, on en a vu un exemple avec le cas Suarez, on l'a dit. Et la technologie sur la ligne de but, on l'a constaté lors du premier match des Bleus avec le but du gardien du Honduras contre son camp suite à une frappe de Benzema.
Et ce qui est important quand même de préciser, Alexandre Sebon, c'est que la vidéo et la technologie sur la ligne de but, finalement, ce sont deux procédés différents et ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ah ouais, je reconnais que c'est troublant. Ouais. La frontière est assez mince, mais non, c'est pas la même chose. En fait, le board et la FIFA ont décidé d'autoriser un système d'ordinateur pour calculer en temps réel si un ballon a franchi la ligne ou non, pour ne plus avoir à subir ce genre de problème comme lors d'un certain Allemagne-Angleterre il y a 4 ans. Donc on utilise un système qui n'est pas la vidéo, on ne revisionne pas des images en temps réel pour savoir s'il y a but ou non. Sur ce point précis, il arrive que les images ne soient pas claires d'ailleurs, puisque sur le but du gardien du Honduras face à Benzema l'autre jour, les images n'étaient pas claires, on ne voyait pas que le ballon rentrait alors que l'ordinateur l'a prouvé.
Ouais, mais pourquoi on n'utilise pas la vidéo pour un but inscrit par un joueur hors jeu par exemple?
Eh bien, c'est très simple. Le football, est un jeu foncièrement humain. Et la FIFA et le board veulent garder cet aspect humain et universel du football. C'est-à-dire qu'on puisse jouer à Bamako, à Paris ou à Pékin le même football avec 22 joueurs, 3 arbitres. Pas de football à deux vitesses, hormis ce cas exceptionnel du mondial avec la technologie sur la ligne de but.
On peut en parler d'ailleurs demain si vous le souhaitez, puisque demain nous allons jouer les prolongations. On va revenir sur les deux matchs, les deux affiches de ce soir, France-Nigéria, Allemagne-Algérie. Et si vous souhaitez parler de l'arbitrage et de la vidéo, évidemment, vous serez les bienvenus, 33 9 693 693 70. Alexandre Sebon, merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée, à bientôt évidemment. Salé, bonne journée à Mundo. Vous restez avec nous tout de suite, le journal, et on revient dans 10 minutes pour parler d'une affaire qui défraie la chronique au Niger.
Appel sur l'actualité, vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.